Je suis heureuse de vous accueillir pour cette rencontre dans les salons Albert Mola. Donc je vais vous présenter. Vous arrivez de Paris, vous avez un emploi du temps très chargé, vous avez fait l'aller-retour, donc je vous remercie beaucoup. Donc vous êtes chirurgien urologue, professeur à l'Université Paris-Descartes, membre de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie nationale de chirurgie. Vous êtes spécialiste en cancérologie, auteur de plus de 300 publications scientifiques et vous avez de nombreuses fonctions et responsabilités. Je vais m'arrêter là parce qu'autrement on y passerait toute la nuit. Alors un point important, vous avez été chargé de mission et rapporteur au ministère de la Santé de 2002 à 2012. Donc vous avez peut-être pris le goût de l'écriture à ce moment-là. Donc vous avez écrit plusieurs livres et le dernier nous interpelle particulièrement de par son titre, « La médecine sans médecin ». Alors c'est un livre qui a été publié aux éditions Gallimard dans la collection « Le débat ». Alors c'est une réflexion sur le débat ou peut-être même le combat qu'il convient de mener sur le soin et la santé à l'heure actuelle, à l'ère du numérique et plus largement sur l'avenir de la médecine en France. Alors, vous décrivez les bouleversements récents et à venir. Vous expliquez qu'une nouvelle médecine émerge grâce au numérique. Et vous l'appelez la médiamédecine. Alors, qu'est-ce que la médiamédecine?
Vous voulez que je vous réponde maintenant?
Oui.
Alors, la médiamédecine, elle date d'il y a 200 ans, quand le 17 février 1816, mon illustre confrère René Théophile Marie Hyacinthe Laennec se mit à rouler des feuilles de papier et les positionna entre son oreille et le dos d'une accorte jeune femme qu'il devait examiner. Et il s'aperçut que les bruits du cœur et du poumon étaient bien plus forts et bien plus nets qu'en mettant l'oreille et ce qu'on appelait l'auscultation médiate, directe, l'auscultation immédiate, directe. Donc de ce jour, c'est en s'éloignant du malade que le médecin a optimisé les résultats de ses investigations. Phénomène qui était inconcevable auparavant. Et quand on regarde deux siècles plus tard, eh bien, on en est là. Et avec tous les éléments de la technologie, nous sommes de plus en plus à travailler à distance. Je suis un chirurgien qui, depuis près de 20 ans, a mis les mains dans un robot et opère assis à une console opératoire à 2,50 m du malade qui est opéré avec les bras télémanipulés. Donc, voilà le mot de médiamédecine, parce que Laennec a écrit 3 ans plus tard un livre de l'auscultation médiate, et c'est pour ça que j'en passe de la médecine où avec les mains, le nez, les yeux, les oreilles, le médecin palpait, regardait, sentait, mais ces éléments sont subjectifs, ils sont non quantifiables et ils sont non transmissibles. Et quand on regarde aujourd'hui, les éléments que sont la biologie ou l'imagerie, ce sont des éléments objectifs, mesurables, et que l'on peut balancer d'un bout à l'autre de la planète en un clic d'ordinateur. Donc on est fatalement, nous les médecins, nous sommes de plus en plus dépossédés de ce qu'on appelle l'examen clinique. Je reviendrai sur l'interrogatoire, vous me direz, mais de plus en plus l'examen clinique, car regardez bien ce qui se passe. On n'attend pas d'avoir une boule dans le sein pour faire le diagnostic de cancer, c'est la mammographie qui le montre. On n'attend pas que le toucher rectal montre une prostate pierreuse, dure, indurée, c'est le dosage du PSA qui alerte le médecin. On n'attend pas de cracher du sang pour faire un diagnostic de cancer du poumon ou d'avoir du sang dans les urines pour faire le diagnostic d'un cancer du rein. C'est l'échographie abdominale, même faite parfois pour autre chose, qui montre la petite boule de 10 mm sans qu'on attende que la tumeur se mette à faire 15 cm et devienne inextirpable. Donc on voit bien que les éléments de la clinique, qui était cher à Foucault avec son livre « De la naissance de la clinique », sont en train de disparaître peu à peu au profit des éléments diagnostiques que sont l'imagerie et la biologie. Il y a un élément qui restera et qui est majeur, et ce sera tout le fil de la conférence, c'est dans l'approche clinique qu'a le médecin du malade, c'est l'interrogatoire. C'est la consultation, c'est le premier aspect, c'est l'approche, c'est déjà de dire bonjour, de s'asseoir et d'écouter la personne qui est en face de vous. Comme les bons flics, plus on écoute, meilleure est la solution, car on arrive au diagnostic. Je vous rappelle que dans l'affaire de ce fameux, de cette petite boîte de médicaments qu'une dame âgée, dans laquelle une dame âgée avait mis un diurétique à la place, un antidépresseur à la place du diurétique, et qu'elle a montré la boîte à une petite préparatrice de pharmacie Ignard, on s'est dit, oh là là, c'est le drame, il y a une erreur. Et donc, on a arrêté toute la chaîne de production des laboratoires Teva. Ça a été le scandale national, vous vous en souvenez tous et toutes. Et en gros, c'est 3 semaines après qu'on a fait le diagnostic, et c'est un flic. C'est un policier qui ne comprenait rien à l'affaire, qui est allé revoir la petite dame en lui disant, allez, asseyons-nous et expliquez-moi. Il a joué à Maigret, et là, elle lui a tout raconté, et l'affaire s'est tassée. Vous voyez comme quoi nos sociétés sont capables de s'emballer pour des bêtises. Donc l'interrogatoire est le fil rouge de la décision, parce que c'est lui qui permet d'aller au plus vite, avec le minimum d'examens complémentaires, pour savoir quel est le diagnostic, et ensuite ce qu'il faut faire.
Donc on vit en fait une révolution scientifique, avec ces nouvelles techniques. Et tout au long de votre ouvrage, vous dénoncez les casseurs de progrès. Vous les appelez comme ça. D'ailleurs, vous dites, dans l'Antiquité, la médecine était ignorante, les hommes la sacralisaient. Lorsqu'au XIXe siècle, elle devient savante, ils la respectèrent. Et aujourd'hui, alors qu'elle est efficace, ils la suspectent.
Ben oui, c'est le prix à payer de l'efficacité. On ne supporte plus l'erreur, je ne parle pas de la faute. La faute est toujours condamnable. Celui qui ne se lève pas, parce qu'on l'a appelé à 2h du matin et avec l'opéré de la veille et qui meurt le lendemain d'hémorragie parce qu'il n'a pas voulu se déplacer, c'est une faute. En revanche, l'erreur est humaine, vous le savez bien. Et à partir du moment où on manipule le vivant encore plus, parce qu'on peut avoir affaire à des réactions parfois inattendues, donc on est bien dans ce domaine. Et plus la médecine est efficace, plus elle est suspectée. Mieux on fait, plus il y a de procès. Je me souviens d'une malade greffée, jeune et jolie, ça arrive, d'être les deux, tout en étant greffée, bien sûr, et elle nous a fait un procès, donc il s'est arrêté, bien sûr. Elle nous a poursuivis parce qu'il y avait une toute petite, sur sa cicatrice abdominale, qui n'était pas déjà grande, il y avait un tout petit défaut, un tout petit retournement de peau. Elle avait été sauvée par la solidarité humaine la plus totale, c'est-à-dire une famille avait accepté que la personne qui était morte donne ses reins. Toute une chaîne de solidarité, depuis le transport jusqu'à la transplantation rénale, tout ça, elle s'en foutait. Elle avait un tout petit défaut, mais microscopique, qui avait 3-4 mm. Donc on en est là, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on vous offre comme possibilité de réparation, et on va regarder le tout petit détail qui ne gêne personne.
Alors justement, vous défendez l'importance du progrès et du principe d'innovation contre le principe de précaution et la phobie du risque. Alors dans un chapitre qui est assez grand d'ailleurs, vous êtes assez remonté dans ce chapitre, qui s'appelle « Des mots d'hier à la sécurité aujourd'hui ». Donc ça commence, je vais lire, « 1000 ans d'horreur, de drames épouvantables, d'épreuves personnelles, familiales et collectives insoutenables, de détresse et de mort accumulée. Qui s'en souvient ? Famine, épidémie, maladie atroce, traumatisme. » Donc je passe... Et puis vous dites, à l'époque, nul n'avait le temps de se regarder le nombril, donc les cicatrices, justement, dans une vie abrégée par les dangers incessants. Et puis vous prenez beaucoup d'exemples dans tout ce chapitre. Alors je crois qu'on ne va pas détailler, on va laisser découvrir...
Non, je vous les laisse. C'est pour le lecteur, mais c'est vrai qu'il... Pardon, je vous ai interrompu.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais je pense qu'il fallait reprendre, parce qu'on est dans un monde où hier, c'était mieux. Mais pas du tout. Mesurer ce que devait être une appendicite qui se terminait en péritonite, alors qu'on n'opérait pas. Mesurer le moindre abcès dentaire qui arrivait avec des phlegmons de toute la mâchoire. Enfin, mesurer tout ce que nos aïeux, on peut endurer sans aucun traitement. Et les famines régulières. Il y a eu à peu près une cinquantaine de famines en France, dont 13 générales, qui emportaient des centaines de milliers, voire des millions d'hommes et de femmes, qui étaient déjà dans des états de survivance limite. Et là, on est en train de nous dire que la bonne nature, c'est merveilleux, il faut retourner à la faux et puis au sillon, couper gentiment à la main. Enfin, je veux dire, arrêtons, on est dans un monde où jamais nous n'avons connu une longévité à ce point chez l'homme, et une longévité de plus en plus en bonne santé. Et ça, c'est grâce aux progrès, qu'on le veuille ou non. Alors bien sûr, ces progrès ont leurs défauts, ont leur pollution, on le voit bien avec la COP, mais regardons le bilan positif, c'est ça que je voulais dire. Par rapport à ce que nos aïeux ont connu, nous vivons mieux. Non seulement notre espoir de vie s'est allongé, et deuxièmement, nous sommes dans le seul espace au monde qui est plus développée par la connexion des sciences peu à peu et du capitalisme. Il faut le dire vraiment depuis les premiers banquiers de la Renaissance. Et c'est là où a pu se développer non seulement l'allongement de la durée de vie grâce aux éléments de l'hygiène, de la qualité de vie et de la médecine, et puis les droits, la démocratie, les droits de l'homme. C'est l'espace au monde où nous avons pu développer tout cela. Le rejeter d'un verre de main en disant tout ça c'est pas bien, revenons à l'homme de Cro-Magnon, j'ai pas du tout envie.
Donc est-ce que l'on peut faire un état rapide des lieux, rapide de la médecine aujourd'hui, tout en développant la notion de soins et de santé? Je pense que c'est important de parler de l'un et de l'autre.
Vous avez raison, tout à fait. En fait, aujourd'hui, nous avons acquis quand même des connaissances scientifiques et médicales considérables. Et on peut dire que la France, pour ceux comme moi qui se promènent dans le monde entier pour aller opérer ailleurs, nous gardons un niveau de médecine d'extraordinaire qualité. Les médecins sont bons dans ce pays. Il faut s'en réjouir, parce que je connais des pays où véritablement il ne faut surtout pas se faire toucher. Le système, lui, est en train de patiner de plus en plus. On en parlera au fur et à mesure pour évoluer vers d'autres moyens de protection sociale. Mais voilà ce que je peux dire. Vous m'aviez posé la question
sur l'état des lieux. Mais
nous sommes effectivement sur santé et soins. Nous sommes en permanence dans un flou sémantique assez surprenant. Si vous regardez entre santé et soins, on ne sait pas choisir. Donc on parle du ministère de la Santé, c'est d'abord le ministère des maladies. On parle de maisons de santé où se regroupent les professionnels, c'est des maisons de soins. On parle de parcours de soins ou de parcours de santé sans très bien savoir ce que veut dire l'un et l'autre. Donc on a tout faux. Si on prend un système de santé, c'est-à-dire un système qui permette d'accéder au bien-être physique, psychique et social, tel que le décrit l'OMS, le complet bien-être. Alors mesurez, il n'y en a pas un d'entre nous qui est en bonne santé, on est tous vraiment très très malades. Ou alors s'il y en a un qui est en bonne santé, c'est un état très précaire. Mais en gros, si on parle d'un système de santé, on voit qu'à ce moment-là, l'hôpital est l'échec d'un système de santé. Parce qu'un système de santé doit se préoccuper en premier lieu de la prédiction, on le verra avec le développement de la génomique, de la prévention ou du traitement très précoce. Et arriver à l'hôpital, c'est que le système n'a pas fonctionné, les pare-feux n'ont pas été suffisants et on arrive dans un état beaucoup plus grave. Donc dans un système de santé, l'argent, si on parle vraiment politiquement système de santé, l'argent doit être mis en masse sur le soin primaire, tout début sur la prévention au maximum, plus que sur les budgets hospitaliers. Si en revanche, on ne pense que système de soins, et c'est le cas aujourd'hui, alors l'hôpital reprend une place prépondérante, puisqu'il représente à peu près 80 milliards de dépenses sur les 180 de l'assurance maladie. Donc il faut bien faire attention, et les politiques là-dessus ne sont pas claires. Car vous savez tout aussi bien que moi, les visions à 10 ans du personnel politique sont tout à fait exceptionnelles. On peut dire que ce sont des illuminations extrêmement brèves et que leur vision est à 15 jours ou 3 mois des élections successives. Et on est très frappé parce que pour l'instant, je travaille, on me demande de venir expliquer un petit peu cette évolution de la médecine. Et à chaque fois, quel que soit le parti, on vous demande des recettes. C'est étonnant. On ne vous dit pas, alors auriez-vous un schéma de construction d'un système qui soit cohérent et pérenne? Non, c'est, vous dites qu'il faut fermer certains petits hôpitaux, non pas au moins les services de chirurgie. Alors, quelle est la recette? Voilà, le politique fait de la cuisine, voilà.
Hein. Alors, vous dites qu'on se dirige vers une industrialisation de la médecine, vers une industrie de soins. Qu'en pensez-vous? Enfin, c'est un petit peu ce que vous disiez par rapport
à l'artisanat ou à l'art médical. Et j'ai comme exemple, je pourrais prendre celui de la voiture, de l'automobile.
Vous l'avez pris dans le livre.
À la fin du 19e siècle, les voitures étaient, vous le savez bien, construites à la main. Il fallait une manivelle pour démarrer et on se fracturait le poignet une fois sur deux. Il fallait des biceps énormes pour tenir un volant grand comme ça sans assistance. Il fallait se mettre debout pour appuyer sur la pédale de frein. Les lampes à acétylène voyaient à 3 mètres au maximum et les pneus crevaient tous les 10 km. Donc on avait obligation d'avoir un chauffeur. Il fallait assurer la machine, le fonctionnement de la machine qui tombait en plus régulièrement en panne. Et puis Ford est arrivé avec sa construction en chaîne. Il a mis à disposition des ouvriers, de l'ouvrier moyen américain, la petite voiture noire à capote. Et puis ensuite, les femmes américaines et puis européennes se sont mises à conduire. Puis plus récemment, les handicapés se sont mis à conduire. Et aujourd'hui, la voiture va toute seule. La Google Car a fait 1 500 000 km. Elle a eu 13 incidents. Un accident. Et l'accident, c'est à un carrefour. Arrivée par la droite, une voiture qui n'a pas voulu freiner. La voiture qui était devant la Google Car, son chauffeur, a pilé. La Google Car a pilé. C'est la voiture de derrière qui lui est rentrée dedans, parce que la personne était distraite ou au portable. Donc vous voyez comme quoi on est dans une, aujourd'hui dans un monde où la machine est en train de faire de mieux en mieux. On n'est plus au temps où ça fumait dans tous les sens, où autour des pistons de la machine à vapeur, il y avait des giclées d'eau bouillante. C'est fini ça. Le robot que j'utilise ne tombe, on peut dire, quasiment jamais en panne. C'est impressionnant, c'est des milliers d'interventions sans que ça ne tombe en panne. Et si je regarde, quand je prends ma main, je ne peux pas faire 360 degrés parce que mon radius et mon cubitus se chevauchent et donc je suis limité au maximum à 260 degrés. Si je veux faire 360 degrés, il faut que je me tourne. Alors que le bras que je télécommande avec mes petites manettes, ma chirurgie Nintendo, eh bien, lui, il fait 360 degrés et puis il peut le faire 100 000 fois dans le même sens et à l'envers. Il a une laxité exceptionnelle. Donc ces outils-là, ces outils industriels, nous aident considérablement dans notre action. On verra si demain ils nous remplaceront, mais aujourd'hui ils nous aident. Donc on passe d'une médecine artisanale solitaire, du médecin solitaire, et Dieu sait si les médecins ont fait un très beau boulot. Je n'en veux pas du tout aux médecins généralistes. J'ai fait de la médecine générale avant d'être chirurgien dans les bois des Ardennes et dans les blés de la Beauce. Et je sais ce que c'est que d'avoir une population et d'être vraiment celui qui s'occupe de tout le monde. Mais c'est une époque finie. L'accumulation des connaissances est telle. Et 700 000 articles scientifiques par an. Vous n'avez même pas le temps en une journée de les avaler les uns après les autres sur 365 jours. Donc il faudra bien qu'on ait des espèces de systèmes qui nous aident, qui réduisent et qui nous permettent des dictionnaires Google à la française, qui nous permettent d'aider à la clarification des choses pour qu'on puisse avoir accès aux données de la science le plus vite possible en tant que médecin et en tant que malade. Car après tout, le disque dur est le même. Nous sommes dans un monde où malades et médecins, et bien portant malades et médecins, on peut avoir les mêmes informations. Et tant mieux, on verra ensuite quel est mon rôle à ce propos. Donc on passe d'un système artisanal isolé à un système industriel, regroupement des acteurs dans ces maisons de santé qui vont fleurir. Il y en a à peu près 800 en France. On s'attend à, il en faudrait 10 à 12 000 qui soient répartis sur la totalité du territoire. Ce sont des plateformes sanitaires, c'est des monops, c'est des petits deli markets que l'on voit dans les rues des villes. Voilà, c'est ça, c'est des petits monops sanitaires ouverts jusqu'à 11 h le soir. Avec des médecins, des infirmiers, des kinésies, des podologues, des psychologues, des orthoptistes, tout ça, on a tout le monde. Voilà.
Quand vous parliez de votre outil, là, oui. Nintendo, enfin le robot,
oui.
Vous dites qu'il faudra former des métiers intermédiaires,
oui.
Et que le vrai rôle du médecin sera une valeur ajoutée.
Oui.
Alors les métiers intermédiaires, on va les retrouver dans ces maisons. Maisons de santé, vous parlez aussi de bus de santé.
Oui. Oui, j'en ai créé ça. Enfin, c'est une réalité.
Voilà. Et en fait, le grand désespoir que l'on ait à l'heure actuelle, c'est quand même les déserts médicaux. C'est un terme qui est très à la mode.
Oui.
Et puis, la permanence des soins qui n'est pas
assurée.
Bonne ou assurée sur tous les territoires.
Alors
comment est-ce que l'on peut faire?
Que peut-on dire? Premièrement, nous sommes dans un système assez curieux où entre l'infirmière niveau licence Bac plus 3 et le médecin entre 10 et 14 ans, plus 10 ou 14, il n'y a quasiment pas d'intermédiaire. C'est tout à fait exceptionnel. Dans n'importe quel univers économique, vous avez des personnels qui sont au moins niveau master, un ou deux. En dehors des sages-femmes, qui sont une profession médicale et qui ont le droit de prescrire et d'assurer un certain nombre de gestes médicaux, et elles sont donc dans le monde médical, les autres ne le sont pas. Et c'est absurde parce qu'il y a une espèce de fracture qui se fait. Je pense véritablement que tout personnel qui a accès à un malade, de l'aide-soignante qui va tenir la main au lit simplement, ou remonter la couverture, ça suffit. Mais elle est au contact du malade, jusqu'au professeur de médecine, est un personnel médical. Il ne faut pas qu'il y ait de scission entre paramédicaux et médicaux. Tous sont personnels médicaux à responsabilité variable. Voilà, ça c'est la première chose à lancer. Deuxièmement, c'est vrai que nous sommes très en retard dans ce domaine, parce que pourquoi aller faire des tâches de bac plus 3 à des bac plus 12 ? Économiquement, ça ne tient pas la route et on nous le fera payer. On nous dira, vous coûtez très cher pour des choses que vous n'avez pas à faire. Faut-il, pour aller lire ZU à 2 mètres, ZU, et puis regardez si vous avez les genoux cagneux et pas un petit souffle en respirant, faire appel à une consultation médicale. Non, bien sûr, une infirmière dédiée peut le faire. Faut-il que les médecins vaccinent ? Non, demain, c'est absurde. Donc, il faut bien savoir qu'en gros, 70% des tâches, des actes médicaux réels, hein, et non pas des décisions et de la consultation et de la prescription. Des actes médicaux techniques peuvent être délégués à des personnels qui le feront aussi bien, on le sait par l'expérience des Anglo-Saxons qui ont ça depuis des années. Et dans mon service, nous avons pu, grâce à l'un des ministres pour lequel je faisais des rapports, avoir ces personnels dédiés qui ont reçu une formation complémentaire. Donc des infirmières qui ont été upgradées, comme on dit en anglais, pour nous aider. Et elles assurent tout l'examen, tout l'interrogatoire, tout l'examen, le toucher rectal y compris. Elles font l'échographie abdominale, elles prélèvent le sang pour les bilans biologiques, elles peuvent prescrire un scanner ou une URM selon un certain nombre d'items que l'on leur a donné. Et ensuite, quand moi je vois la personne qui vient pour une consultation, on a un échange beaucoup plus fort parce que la personne a déjà mûri sa maladie avec l'infirmière. Et ensuite, en alternance, on revoit à 3 mois, 6 mois, une fois c'est elle, une fois c'est moi. Et les malades, on avait été investigué par l'IRDES sur ce sujet, les malades sont extrêmement contents, premier résultat. Deuxième résultat, ils ne disent pas toujours la même chose à l'infirmière et à nous, donc il y a une bonne cohésion, il y a une espèce de complémentarité entre les deux. Troisièmement, il n'y a pas plus d'accidents. L'infirmière n'a pas raté plus que nous. Voilà, il n'y a pas plus d'accidents. On le sait, chez les Anglo-Saxons, ce sont les infirmières qui font les gastroscopies, les colonoscopies, les cystoscopies de plus en plus, elles-mêmes. Et nous avons récupéré à peu près 20 à 25% du temps médecin, justement pour le dédier à de nouvelles consultations lentes. Donc demain, et j'en viens à ce que vous me posez, la question que vous posez sur le rôle du médecin, la valeur ajoutée du médecin, quelle est-elle ? Elle est considérable en qualité, elle est faible en quantité. Considérable en qualité, parce que dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes dans des systèmes totalement balisés, normés depuis la communauté européenne, en passant par le ministère de la Santé, les agences régionales de santé, les sociétés savantes. On nous édicte de plus en plus de règles, de bonnes pratiques, des recommandations, des règles de bonne conduite. Donc si c'est pour appliquer des règles, pas la peine de faire 12 ans d'études, vraiment. La responsabilité est plus limitée. En revanche, on sait bien, et s'il y a des médecins et des confrères dans la salle en dehors de vous-même, on sait bien que dans un certain nombre de cas, la personne qui est en face de vous, le malade qui est en face de vous, pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales, pour des raisons socio-professionnelles, culturelles ou religieuses, ne rentre pas dans ce moule-là, parce que ces données, ces directives sont basées sur des populations statistiques. Donc on prend des milliers de malades et on regarde ce que ça donne quand on fait le traitement A ou B. Voilà. Donc on vit dans la statistique, mais moi j'ai pas une statistique en face de moi, moi j'ai un être unique, un individu unique. Et c'est mon rôle de médecin, lorsqu'on voit que ça ne marche pas avec les normes qui nous sont édictées, de les transgresser, ces normes, de les dépasser, de les foutre au panier directement. C'est ça ma vraie qualité, ma valeur ajoutée considérable. Hein. Et c'est pour ça que je prête le serment d'Hippocrate, et c'est pour ça que les malades me font confiance, parce que si c'était pour appliquer des règles, ils peuvent le faire eux-mêmes. Or, ce qui est très frappant, c'est que, et pourtant je suis chirurgien, donc je m'intéresse à la technique, mais ce qui me passionne dans mon métier, c'est la consultation, c'est le contact, bien sûr. Et quand vous avez en consultation une personne qui vous dit, à la fin, lorsqu'on lui a proposé les différentes options thérapeutiques, et qu'elle vous dit, et si c'était vous, professeur, vous feriez quoi ? Eh bien ça, quand elle me dit ça, la personne qui est en face de moi, j'ai gagné. C'est-à-dire qu'elle m'a transmis complètement sa confiance. Elle me dit, je m'en remets à vous. Dites-moi ce que vous feriez pour vous, parce que je pense que pour vous, vous choisiriez bien. Et c'est ça la vraie médecine. Tout le reste se délègue. Nous avons été lentement mais sûrement embuée dans un système technocratique épouvantable, dont on a un mal fou à sortir. Il faut rétro-pédaler, il faut revenir à l'essentiel de notre vocation, qui est la présence humaine et l'humanisme médical, d'autant plus que la technologie va nous envahir encore plus, puisque, et là je vais peut-être aller sur l'ordinateur, non ?
Non ? Peut-être après ?
Alors, je vous laisse, vous comptez. Voilà, on y reviendra.
Vous parlez de consultation en vidéo-transmission, qui se développe de plus en plus. Hein. Vous avez des exemples de patients qui, plutôt que de venir à l'hôpital, peuvent rester chez eux.
Oui.
Mais est-ce que ce n'est pas une sorte de déshumanisation ou...
Mais non, pas du tout. Quand vous avez, par exemple, comme spécialiste, il m'est arrivé de consulter à distance avec des médecins installés à 400 km de Paris par vidéo, par Skype, par vidéo transmission. Ce que vous faites tous les jours avec vos enfants quand ils sont à Londres, à Hong Kong, à Singapour, à New York, je veux dire. Quand on est en famille, ça se passe très bien. Tout le monde est ravi. Ah, mon petit chéri, comment ça va? Ah, ta petite Julie, elle va mieux. Là, là, elle a eu la grippe. Tout ça se passe bien. Il y a une connexion incroyable. Mais quand c'est de la médecine, pouah, c'est cochon. On n'a plus le rapport humain. Mais c'est faux. C'est faux. C'est absurde. Parce que les expériences concrètes que l'on a sont très fortes. Les malades que l'on voit, au lieu de les déplacer, on les voit parfois seuls, parfois avec leur médecin dans la maison de santé, et en quelques minutes, c'est parfois pour rassurer sur un diagnostic ou une thérapie, l'affaire est pliée. Il n'y a pas besoin de se déplacer, de prendre sa voiture, de ne pas oser rentrer dans Paris avec les embouteillages, d'aller attendre 3 heures, prendre son ticket à l'hôpital, à la consultation avec tous les autres, bref, pour juste dire la même chose. Donc, la téléconsultation est l'avenir, et quand vous regardez dans les maisons de retraite, elles se développent de plus en plus rapidement dans les maisons de retraite. Le sourire des vieilles, vieilles personnes qui sont là quand le médecin apparaît sur l'écran. Mais c'est un bonheur, on voit qu'elles sont contentes, puisque ce sont quand même 80% des femmes.
Il est encore plus grand que d'habitude.
Mais oui, non, mais il y a une présence. Le phénomène télévisuel ne réduit pas, c'est une autre présence. De même que les emails, c'est aussi très important, parce que vous avez très vite un résultat. Et vous avez par email, vous savez, des hommes qui n'osent pas dire « je t'aime » à une femme parce qu'ils deviennent tout rouges en la regardant. Eh bien, ils vont lui écrire des poèmes. Eh bien, l'email peut être extrêmement chaleureux et on peut avoir un contact fou en écrivant, en retrouvant l'écriture qu'on en a perdue en n'ayant que l'image.
Les mails et les textos.
Alors, les textos, c'est amusant. J'adore les textos parce que ça vous oblige en 140 caractères à trouver des phrases intelligentes à la lettre près. Je trouve ça très, très amusant et très stimulant pour les neurones.
Comme les tweets.
Oui. Oui.
Alors, bon, vous avez déjà parlé de l'hôpital, mais on va en parler en termes de défis maintenant, parce qu'on parle d'une plateforme qui est hautement technologique, hein, c'est ce que vous dites dans votre livre, un hall opératoire avec des défis en termes de productivité et de rentabilité surtout.
Oui.
Alors, l'hôtel sera en dehors de l'hôpital ou...
Oui, alors on y va, bien sûr. On va vers la scission entre la partie hôtelière et la partie soins. Mais ça fait longtemps. En 1975, Paul Dubrulle et Jacques Pélisson, donc les créateurs d'Accor, prennent rendez-vous chez Simone Veil, alors jeune ministre de la Santé. Ils arrivent dans son bureau en disant « Madame la ministre, on a un truc en plume pour vous, on veut créer l'hostel. On va vous faire toutes les nuitées, on va... mettre juste à côté de vos blocs opératoires, de vos laboratoires de biologie, de la radiologie, de tout ça, on va vous mettre des chambres, salle à manger, salon, tout ça, tout sera fait, un hall, un lobby et tout. On vous organise ça pour un prix qui sera moins cher que la journée d'hôpital. » Ça l'intéresse, la ministre est intéressée, et du jour où elle a commencé à se lancer un peu dans l'affaire, la violence de réaction des syndicats, notamment de la CGT, majoritaire à l'époque dans la fonction hospitalière, publique hospitalière, était telle qu'elle a rengainé. Ça fait donc 40 ans, et on y revient. Voilà, Marisol Touraine se met à dire, faudrait peut-être ouvrir des hôtels à côté des gnagnagna. Vous savez que c'est pas difficile et ça marche très très bien. Nous n'avons pas globalement à nous préoccuper. Une nuit à l'hôpital, c'est une journée d'hôpital complète, avec bien sûr les soins, c'est entre 1000 et 2500 euros. Alors là, vous payez déjà une petite suite au Ritz. Voilà. Bon. Et pour 60 euros, un hôtelier, un constructeur d'hôtel, pour 60 euros, à condition qu'il y ait au moins 60 chambres, il vous fait une prestation en plus de qualité, parce que l'hôtellerie dans l'hôpital, quand vous avez la personne qui arrive à 5 heures du matin, café, une espèce de truc froidasse, ignoble, et puis le déjeuner arrive à 11 heures et le dîner à 5 heures de l'après-midi, avec il n'y a rien, il n'y a même pas de beurre, parce que tout ça, c'est froid, enfin, c'est épouvantable aussi, l'hôpital ne sait pas faire de l'hôtellerie. Or, il est important, quand on est malade, d'être bien nourri. et de bien boire. Hein. Je ne vois pas pourquoi à l'hôpital, je suis désolé, mais on n'aurait pas de temps en temps un petit coup de rouge, je parle au bordelais. Et ben non, c'est quasiment interdit. Donc on voit bien qu'on va scinder de plus en plus la partie hôtelière de la partie hospitalière. Et quant à la partie hospitalière, il faut que l'hôpital améliore sa productivité. Si vous comparez avec un studio d'enregistrement, quel qu'il soit, de musique notamment, ou de cinéma, l'heure compte, et c'est cher. Une heure de salle d'op, c'est entre 400 et 500 euros, selon l'endroit où vous opérez, si c'est un CHU ou un hôpital plus petit. Donc à 500 euros de l'heure, quand vous commencez effectivement à opérer à 9h du matin, qui est vers 3h30, on vous dit qu'il faut arrêter parce que le programme est fini, alors que dans la clinique d'à côté, on va démarrer à 7h30 et qu'à jusqu'à 22h, parfois, ou 21h, on travaille encore. Mesurez que si vous perdez comme ça 3 heures par jour de salles qui ne servent à rien, mais qui sont là avec des personnels dédiés, 3 heures par jour, par salle, vous voyez à la semaine à 500 euros, donc ça vous fait 1500 euros par jour, vous multipliez, vous faites du 10 000 euros la semaine, vous faites du 300 000 euros le mois, et vous faites du 3 millions à l'année. Quoi. Donc la perte en matière chirurgicale à l'hôpital est considérable en France. Les blocs chirurgicaux sont sous-utilisés. Mais un point inimaginable. Et donc, il va falloir remédier à cela. D'où la nécessité de concentrer les hommes et les moyens matériels sur moins de plateformes hospitalières. Alors, on va me dire, ah, gna gna, les déserts, voilà, on a fermé la chirurgie à Romorantin ou à Cajar, et gna gna, il faut que je me déplace à la sous-préfecture, à la grosse ville. C'était pas comme ça avant. Oui, mais on ne se rend pas compte que quand on fait peu, on fait mal dans mon métier, et on a parfois des drames qui seraient passés et qui ne se seraient pas passés si on avait été en structure plus lourde. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas des accidents, même dans les structures lourdes comme la mienne, tout le monde peut avoir des erreurs, faire des erreurs. Mais on voit bien quand même, certains endroits, on a pu évaluer à l'occasion de missions ministérielles, un taux de mortalité de 50%. Une petite ville du sud de la France où on va voir le bloc 50% de morts pour la chirurgie du côlon. 12 opérations du côlon dans l'année, c'est vraiment pas beaucoup, 6 morts. C'est pire qu'en 1890 ou qu'en 1920 sous Henri Mondor. Bon, pourquoi ? Parce que le chirurgien est seul. Il n'est pas, c'est souvent, ce sont formés, et je le dis sans méchanceté, ce sont souvent des chirurgiens à formation qui ne sont pas françaises et dont on ne connaît pas exactement le cursus, parce que les autres ne veulent pas y aller dans ces hôpitaux-là. Et ils se mettent aux techniques les plus modernes qui demandent un savoir-faire important et une expérience et un apprentissage lourd. Ils opèrent le malade, ça se passe mal. Donc on le met en réanimation, pseudo-réanimation, parce qu'on n'a pas tous les moyens. Et puis ensuite, il faut le réopérer 2-3 fois. Et le malade meurt parfois 3 semaines, 1 mois après. C'est un scandale. Plus on veut maintenir cette pseudo...
médecine de territoire.
Oui, cette pseudo-médecine de territoire au sens où la proximité est considérée comme une qualité, plus on aggrave les inégalités. Parce que qui va là ? Ce sont les plus vieux et les plus pauvres. Terminé. Les autres, coup de fil, ils savent où aller. Ils prennent la bagnole et voilà. Et Jean ou Jean, tu m'emmènes. Donc on voit bien qu'il y a une différence monstrueuse entre ceux qui ont les moyens d'avoir l'information et les moyens de se déplacer et les autres. Et c'est ceux-là qui en pâtissent. Donc il faudra assurer, on peut assurer aller chercher dans le moindre champ de la vallée la plus reculée, de la plus haute Corse, hein, ou à Ouessant, ce qui se passe à Ouessant. Vous entendez les Iliens râler ? Jamais. Pourquoi est-ce qu'en France, c'est le sud-ouest qui gueule ? Je suis désolé de le dire, mais ça vient souvent du sud-ouest. C'est quand même marrant. Les gens de Saint,
hein,
d'Ouessant, non, mais je dis pas ça pour Bordeaux, mais des Saints, de Belle-Île, alors il y a souvent un médecin, c'est vrai, mais pas toujours. Et puis quand vous avez Force 12 en mer d'Iroise, bon, le bateau passe plus, donc on va chercher le gros frelon de la Royale qui vous cherchez l'appendicite et qui vous l'amène en 10 minutes au CHU de Brest. Donc on a les moyens héliportés, on a tout ce qu'il faut, c'est pas cher l'heure d'hélicoptère, c'est 2000 euros, 2500 euros, c'est beaucoup moins cher que d'entretenir des équipes entières, jour et nuit, dans des petits hôpitaux où il se passe rien. Donc il va falloir reconcentrer, redistribuer la carte. En revanche, il faut créer ces maisons de santé dont je vous parlais, qui regroupent les professionnels et qui seront les plateformes sanitaires de premier recours, là où on va venir en premier, où il y aura les petites urgences, la bobologie, comme on dit dans le métier. Ils auront de quoi accéder à de l'échographie, peut-être même des petits scanners qui ne sont pas forcément les dernières générations qui vont faire tous les petits détails. Là encore, en France, on veut toujours le dernier matériel. Mais le Japon a compris, il a des scanners de détection et des scanners d'éléments plus compliqués. Et on ira à partir de là dans les villages. On peut aller, on n'est pas obligé d'avoir un médecin tous les jours dans un village. Que je sache, se nourrir est vital et il n'y a pas un marché tous les jours à Amber. Bon, voilà, hein, c'est comme ça. Et donc on ira en professionnels différents. Une fois l'infirmière, une fois le médecin, une fois le kinésie, on peut faire le tour des populations dans des lieux dédiés par les petites mairies. Et éventuellement, ce que nous avons créé là-haut, dans la Thiérache, où il n'y a vraiment rien, il y a des gens d'une pauvreté absolument misérable, avec des portables qui ne passent pas. Donc on a mis un téléphone satellitaire sur le bus et on a créé un bus santé qui a très bien marché. On a dû l'arrêter parce que le conseil de l'ordre de la Somme à l'époque nous avait considérés comme des charlatans ou des médecins forains, donc on a arrêté. Heureusement, la noble institution de l'ordre médical a changé son fusil d'épaule et accepte maintenant. Mais ça marchait très bien parce qu'on était en relais avec le médecin du coin, et c'était une infirmière qu'on avait formée à cet âge de diagnostic du diabète, de l'hypertension, des cancers et autres, qui faisait les prélèvements. Et ensuite, le camion revenait et donnait les résultats et on disait, voilà, vous allez voir le médecin parce qu'on a trouvé ça ou ça. Donc, c'est très vertueux. C'est une chaîne, en fait. Voilà, il faut organiser la médecine comme une chaîne de soins et non pas comme un business personnel.
C'est comme aux Marquises, hein, les médecins arrivent les uns après les autres. Il y a l'ophtalmo qui vient, après le gynécologue.
Voilà. Au Canada, c'est pareil. Vous avez des aires d'action. Un généraliste, le general practitioner, comme on dit. Dans l'Ontario, son rayon d'action est de 200 km. Il a donc des infirmières praticiennes dans les villages qui sont en relais avec lui par télémédecine. Donc on a la vidéo ou pas la vidéo, même simplement avec un smartphone, un téléphone portable. Et si ça ne va pas, on peut soit, si ça paraît très grave, on envoie le malade, on va chercher l'hélico de secours. Et s'il a un doute et tout ça, il prend l'hydravion, il a mairie, il vient voir ce qui se passe. Tout ça s'organise très bien. Ce qui est très curieux, c'est que ce sont dans les pays à climat les plus difficiles, à distances les plus grandes, qu'on met ces meilleurs moyens-là. Et nous, en France, où on a des routes, des départementales à foison, le bonheur, alors on vous dira, ah, vous vous rendez compte, docteur, mais ça passe pas, là, le col, l'hiver. Alors, je me renseigne auprès de la DDE, combien de fois la route est coupée? On me dit, oh, l'an dernier, sur les 3 dernières années, il y a eu 3 coupures pendant 2 heures avec un dessalage. Donc, on vous raconte des cracks. On vous dit que c'est pas possible. Comme toujours en France. Le français dit toujours non. Hein. Toujours non. Avant d'accepter, c'est d'abord niet. Non, c'est pas possible, ça ne marche pas. Alors on s'explique, on discute et on avance pas à pas. L'important dans cette restructuration majeure du système de santé est d'aboutir à ce qu'on ne... à ce que ceux qui sont contre, ceux et celles qui sont contre, ne mettent pas toute leur intelligence, car le français est intelligent, à la résistance, mais au contraire, puissent trouver un intérêt. Donc il faut toujours offrir la monnaie d'échange. On va peut-être fermer le petit service de chirurgie insécure, mais on va vous offrir, comme ça s'est passé à Paimpol, que j'ai bien connu, on va vous offrir la réhabilitation cardiaque. Alors là, très bien, Paimpol est content, la chirurgie se fait à Saint-Brieuc, et puis à Paimpol, les personnes âgées pédalent sur leur vélo face à la mer pour leur cardio-training, ils sont ravis, ça fait un centre qui est très expert en plus, qui a acquis une expertise dans le domaine. Donc vous voyez comme quoi, toujours offrir la monnaie d'échange avant de dire on ferme. Voilà.
D'accord. Hein. Donc, ça c'est important évidemment, même dans le domaine de la
santé.
Dans
tous les domaines.
Même après avoir... après le serment d'Hippocrate. Alors, on va revenir sur l'hôpital, hein, les services innovants. Vous avez donné l'exemple du service de neurochirurgie à Grenoble. Mm-hmm. Il se passe quelque chose de très performant.
Oui, il y a deux évolutions qui vont se faire. D'abord, les salles hybrides, ce qu'on appelle les salles d'op hybrides, où vous avez tous les moyens matériels d'endoscopie pour aller voir à l'intérieur du corps, à travers les orifices, de radiologie et de chirurgie ouverte ou de chirurgie fermée avec les petits tubes ou de robots. Et ça, c'est assez nouveau. Ça demande des logistiques industrielles lourdes, mais on va vers ça. Donc, vous voyez bien qu'on ne pourra pas faire ça dans un petit hôpital qui aura un débit faible, parce que ça coûte extraordinairement cher et ça demande donc que ce soit alimenté quotidiennement. Et puis vous avez, au-delà de ça encore, ce qu'on appelle les halls opératoires. Non plus les salles d'op fermées, dédiées, mais des vrais halls qui ont des surfaces de 400-500 mètres carrés, voire plus, avec des aires d'atterrissage, je dirais. Et le malade est endormi dans une salle d'anesthésie, une petite salle d'anesthésie. Il est même souvent mis sur la table dans la position orthopédique, par exemple, s'il le faut, sur le côté, pour une hanche. La table roule, poum! La table d'op roule, elle arrive sur l'aire de travail et toute l'équipe se met à opérer. Et ensuite, la table repart avec l'opéré d'un côté et les matériels de l'autre. C'est exactement ce qui se passe en Formule 1 avec les stands. Vous voyez, c'est pareil. Hein, vous voyez les voitures qui arrivent, choc, tout le monde est là, les pneus, le casque, les machins. Et hop, elle repart aussi vite. Ben, c'est la même chose. Et on optimise à ce moment-là. Curieusement, il n'y a pas plus d'infections Alors parce que ça se fait en orthopédie, notamment à Zurich, et les Suisses là-dessus, vous savez, ils sont vraiment propres, ils font attention. Eh bien, à Zurich, vous avez un hall opératoire tout à fait exemplaire. Et curieusement, je l'ai visité, il n'y a pas plus de bruit, malgré les perceuses et les Black & Decker qu'utilisent mes collègues orthopédistes. Et l'un ne gêne pas l'autre. Et vous avez une mutualisation des personnels qui va être de plus en plus importante. Vous savez qu'aujourd'hui, 4 robots anesthésistes ont été acceptés aux États-Unis. Ils fonctionnent à Tucson. Ce sont des robots qui ont été faits par la compagnie Johnson & Johnson. Ce sont des machines donc qui délivrent le produit, les produits anesthésiques à partir de constantes cérébrales, le pouls, l'oxymétrie, comment je respire et autres. Et ils le font au fil de l'eau. Donc le malade dort juste ce qu'il faut, ce qui fait qu'il se réveille sur la table et il se lève lui-même pour sortir de la salle d'op. Alors pour l'instant, c'est fait pour des anesthésies dues chez des gens de 50 ans à 70 ans en bonne forme, pour des détections de colonoscopie, détection de cancer ou de polype du côlon. Mais ils sont en train de travailler sur des robots anesthésistes qui vont aller faire des interventions, assurer l'anesthésie d'interventions beaucoup plus complexes. Donc on voit bien qu'on se... Là encore, on est dépossédé de plus en plus. Pareil, le robot infirmier existe. Et la machine, vous mettez votre bras dans la machine qui, avec un petit échographe, vient juste regarder la veine que vous ne voyez même pas. Et avec une douceur infinie, l'instrument pique juste comme il le faut, avec la bonne angulation, la veine pour y placer la perfusion sans hématome ni rien. Donc plus ça va, plus la technologie va nous envahir. Et moi, médecin, je vais être aidé de plus en plus par un ordinateur qui me fera le diagnostic. Parce que quand je regarde, je fonctionne par algorithme. C'est-à-dire que quand le malade est là en face de moi, je lui pose des questions, je vais agréger des éléments. Ça je retiens, ça j'élimine, ça je prends, j'élimine. Et j'aboutis à 2-3 hypothèses. Le robot, l'ordinateur, lui, par sa puissance de calcul, va aller chercher peut-être beaucoup plus d'hypothèses et des maladies auxquelles moi je ne pense pas parce que je ne les vois pas, ou quasiment pas. Donc il est capable de m'aider et parfois de faire mieux. Ce n'est pas une critique. Ça ne veut pas dire qu'il aura la décision ultime, mais il est capable d'aller beaucoup plus loin que moi. Pareil pour choisir le traitement. Si vous regardez aujourd'hui, nous sommes de plus en plus dans ce qu'on appelle le génotypage des tumeurs. C'est-à-dire que les chirurgiens que nous sommes, quand on opère, on envoie à l'endomopathologiste qui regarde avec son microscope et qui nous dit « voilà, ça c'est un cancer du rein de tel type ». Et puis, on met ces tumeurs, on les met dans de l'azote liquide, on les garde des années. Et puis, on voit comment évolue la maladie. Et pourquoi, alors qu'on avait deux malades qui avaient le même âge, les mêmes maladies autour, la même comorbidité et le même stade de cancer, pourquoi il y en a un qui a fait des métastases 3 ans après et l'autre qui, 10 ans après, est toujours en vie sans rien? Alors, on regarde le génotype de la tumeur, de quoi elle est faite, quels sont les gènes de la tumeur. Et on voit des différences. Mais pour faire ça, ce sont des milliards de bases qu'il faut analyser. Et c'est, donc comment voulez-vous que je le fasse, moi? Aucun homme ne peut faire ça. Donc c'est la machine qui va nous dire, voilà, on a génotypé la tumeur sur la biopsie de monsieur Intel, tac, en gros, il faut aller à tel ou tel type de traitement. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Quand on aura ça scientifiquement, j'aurai qu'à dire, amen. Et j'aurais surtout à expliquer au malade les conséquences, à le prendre en charge, à le rassurer et à l'aider dans son chemin en tant que cancéreux. Mais cette partie technique de décision, de plus en plus, sera partagée avec la machine et parfois faite entièrement par la machine.
D'où l'intérêt des big data pour l'analyse aussi, dans un autre domaine.
D'où l'intérêt, non, mais tout à fait, d'où l'intérêt des big data qui sont à la fois, tous ces big data, ce sont à la fois des aides, ce sont des addictions. Et ce sont des espions. C'est les trois à la fois. Ça vous aide quand même considérablement. Oui, vous pouvez être addict parce qu'il y a des fous de la montre connectée et il y a ceux qui, s'ils n'ont pas fait leurs 10 000 pas par jour, vont se trouver très mal, très très mal, parce qu'ils ne les ont pas fait. Ce n'est pas qu'ils aillent mal, mais c'est parce qu'ils n'ont pas fait leurs 10 000 pas, donc ils se sentent mal. Je pense que le côté addictif ne fera qu'amplifier le côté addictif des hypochondriaques, qui se regardent de nombril et qui écoutent leur glouglou intérieur tous les jours. Mais l'homme ou la femme sain n'ira pas plus s'inquiéter avec ces outils-là. En revanche, l'espion, oui, il peut arriver, et c'est un des gros débats de savoir ce qu'on fera de ces données qui sont des données privées. Encore que, aujourd'hui, les malades nous envoient tous leurs dossiers par Internet. Ils s'en foutent de la CNIL. Mais alors, comme de leur première chemise, ils veulent avoir accès direct à un bon spécialiste qui lui réponde vite.
Donc vous recevez des IRM.
Donc on reçoit tout, docteur, voilà, ou soit mon mari, c'est souvent les femmes qui font ça. Je ne sais pas si elle pianote mieux que leurs époux, mais c'est sûr. Ou alors lui-même, ou elle-même, voilà, on m'a diagnostiqué un cancer de la prostate, il y a tel stade, on a tout le compte-rendu anatomopathologique, l'imagerie, tout ça transite par le grand cloud, si vous voulez, et les gens ne s'en inquiètent pas, parce que ce n'est pas leur problème. Que ça soit piqué peut-être par des assureurs, on le reverra, mais on peut mettre des pare-feux, c'est très clair. On peut mettre des pare-feux. Et regardez, vos comptes bancaires ne sont quand même pas piqués. Quoi. Hein? Bon, donc on n'a qu'à imiter les banques. Et elles sont quand même assez bien protégées, même s'il y a des risques de hacking tous les jours. Mais je suis pas trop inquiet. En revanche, on va bien voir, grâce à ces données de data et à la combinaison des hommes, je pense que notre système de protection, on peut aller là-dessus tout de suite, non ?
Oui.
Social. Va être bouleversé. Le fait de dire le 1945, je cotise selon mes moyens, je reçois selon mes besoins, va être fracturé par les communautés de patients planétaires. Elles existent déjà en termes de diagnostic, en termes de soutien entre elles. Vous avez des millions de gens connectés. L'Accor, c'est pour les cancers du sein, qui a été créé par une personne que je connais, un franco-américain très sympa, dont la femme avait un cancer du sein. C'est des millions de femmes qui sont connectées sur Accor pour savoir comment ça se passe, échanger entre elles. Il suffit que demain, ces gens-là se disent eh ben, on va payer pour notre risque. Et avec la génomique qui arrive, quand on sera à on est quasiment à 20, 30, 50 euros du dollar de votre séquençage.
Donc, vous voyez
où on en est. On était à 3 milliards, le premier homme séquencé, il y a un peu plus de 10 ans, on en est à 50 dollars. Et donc, vous aurez... Nombre de gens vont y aller en disant « je veux savoir parce que papa a eu un Alzheimer horrible et tout le monde s'en souvient, parce que maman a eu 3 cancers et elle en est morte, donc voilà, je veux savoir, moi aussi, expliquez-moi quel est mon risque. » Même si on ne sait pas traiter, mais expliquez-moi. Et les gens vont l'acheter, ne vous inquiétez pas, les gens l'achèteront. À partir du moment où vous êtes à haut risque, vous allez vous dire « qu'est-ce que je fais et où je mets mon argent ?» Or, vous avez déjà dans le monde 300 millions de diabétiques. 300 millions de diabétiques. Vous leur demandez, à ceux-là qui sont touchés, dans leur chair, au quotidien et pour longtemps. Vous leur demandez 1 euro par mois, vous faites du crowdfunding. 1 euro par mois, 12 euros par an, vous levez 3 milliards et demi. 3 milliards et demi d'euros, c'est le budget du CNRS pour MAPOM. C'est le budget de l'OMS en intégralité pour MAPOM. C'est le budget de la fondation Bill et Melinda Gates pour moi. Donc on va vers ce que j'appelle la charité égoïste. Joli oxymore, mais c'est ça. Je vais me payer mon risque. C'est le Téléthon. C'est le Téléthon multiplié par 1000, 100 000. Parce qu'au niveau de la planète, on va les chercher. Les maladies ne sont plus rares. Quand vous avez 20 000 personnes en France qui sont atteintes, vous en trouvez des millions dans le monde au total. Donc on va bien vers une redistribution des cartes, en partie, grâce aux moyens de l'ordinateur. Hein. C'est la puissance du numérique qui nous permet d'envisager ce genre de choses qu'on ne pouvait même pas envisager il y a 20 ans. Quand on voit les ordinateurs qui ont permis à Armstrong d'atterrir sur la Lune, ils étaient 1000 fois moins puissants que ce que j'ai là dans ma poche. C'est à ce niveau-là, donc ça se situe à ce niveau-là. Et on n'a pas fini, c'est la seule industrie dont on ne voit pas la asymptote. Elle continue à croître. On était à 18 mois, de doublement de puissance sous les 18 mois, on est passé à 2 ans, mais ça continue à croître de façon considérable. On va être aux milliards de milliards de milliards de calculs par seconde. Watson, l'ordinateur d'IBM, pour vous dire une idée, lit 200 millions de pages en moins de 3 secondes. Donc on ne luttera pas, on ne peut pas lutter contre ça. Ce n'est pas nous, notre cerveau est lent. On a un cerveau de dinosaure. Il est très lent. Le passage, l'influx entre les neurones à travers nos axones ou nos dendrites, c'est de l'ordre de 100 à 150 mètres seconde. On est vraiment des bœufs. Hein. Mais on a une capacité exceptionnelle parce que ce n'est pas la puissance informatique qui nous domine. Non, ce n'est pas elle qui est importante. On a une capacité d'abord exceptionnelle de mémoire. Une mémoire extraordinairement puissante. On est capable en plus d'avoir ce subconscient qui nous fait agir. Vous ne savez pas comment vous conduisez. Vous parlez à votre époux, à votre voisin, à votre voisine. Vous conduisez, votre trajet, il est automatique. Et je ne suis pas là à me dire, oh là là, je vais prendre le verre, il faut que je mette telle pression. Non, je vous parle et je bois. Donc on voit bien qu'on a un système extraordinairement complexe par rapport à ce que veulent nous faire croire les tenants du transhumanisme, ces gourous américains, grands scientifiques, dont Google en a acheté quelques-uns pour ses laboratoires de recherche, et qui sont là à se dire nous allons vaincre la mort, nous allons dépasser le corps n'est qu'une enveloppe charnue détestable, seul l'esprit compte, donc allons poser, on va reprendre nos cerveaux et on va les mettre dans un cloud gélatineux où on se retrouvera tous à barboter, transgentiment comme ça. Mais un, s'il n'y a pas d'excitation, s'il n'y a pas d'environnement, le cerveau c'est nul. C'est 1500 grammes de glu. C'est nul un cerveau. Un cerveau doit être alimenté en permanence. Donc il faudra créer des systèmes sensoriels qui permettent d'alimenter le cerveau. Donc on est loin, quand on voit ce côté des transhumanistes qui vous disent nous allons vaincre la mort, et c'est la mort de la mort, sûrement pas. D'abord, qu'est-ce que c'est ennuyeux ? Parce que
vous avez un confrère d'ailleurs,
oui, urologue. C'est mon élève. Alexandre, il était urologue aussi. Oui, je l'ai eu comme interne et on s'entend très bien. Mais lui va plus loin. Encore qu'il est revenu sur il va plus loin sur la notion de transhumanisme, en tout cas sur la notion de la puissance de l'intelligence artificielle qui n'a pas fini de nous surprendre, dont acte. Mais de là à avoir conscience et de là à pouvoir, par exemple, faire une mauvaise action sciemment. Je ne vois pas un robot faire une mauvaise action avec la conscience qu'il fait une mauvaise action. Et un robot peut peut-être aimer parce qu'à la limite, il peut avoir une relation assez forte. C'est vrai que vous savez que dans les maisons de retraite au Japon, vous avez les vieilles personnes qui caressent et qui discutent avec des petits robots qui leur parlent parce que les Japonais ont une tradition shintoïste qui fait que dans tout corps, dans tout matériau, il y a une âme. Donc pour eux, ce n'est pas gênant. C'est étonnant de les voir discuter, on a l'impression qu'ils parlent véritablement comme on parlerait à un chien ou à un enfant. Nous sommes beaucoup plus cartésiens, mais sommes-nous la raison du monde ? Je n'en sais rien, parce que là encore, nous sortons quand même d'un Occident judéo-chrétien qui devra se confronter de plus en plus à une Asie où l'individu n'existe pas encore. Il faut bien le voir, la Chine est un empire du collectif, dans sa tradition. Et ça ne se bouscule pas comme ça. On a beau dire les droits de l'homme, on n'est pas les mêmes. Et donc, il faudra qui va gagner, je n'en sais rien. Mais ne croyons pas que nous soyons universels. Il n'y a d'universel que deux langages. Celui de la science, où d'un laboratoire à l'autre, on échange sur des données, et donc on peut se comparer, et la musique. Parce que même l'écriture, non. Un poème traduit, ce n'est plus un poème. Et donc, la musique... Les notes de la partition, que vous soyez chinois, belge, roumain, américain du Sud, canadien, vous lisez la même chose. Donc, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui sont universels quand on regarde. Et quand on veut parler de ça, il faut qu'on soit très très prudent dans notre Occident vieillissant et un peu hésitant.
Alors, oui. Si on revient justement à la France, donc il y a un chapitre que vous avez intitulé « Gérer les crises ». Et puis ça commence au scandale, pour revenir à la France. Alors vous dites, on se demande encore pourquoi des accidents inhérents à toute activité humaine se transforment en scandale quand les produits agroalimentaires et de santé, médicaments et prothèses sont en jeu. Alors qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui sont anti-OGM, anti-vaccin, anti-industrie pharmaceutique ?
Alors d'abord les accidents, pourquoi ?
Les redresseurs de tort
en fait. Oui, mais pourquoi parle-t-on de scandale quand ce sont des accidents ? Quand l'avion d'Air France, l'Airbus d'Air France s'abîme entre Rio et Paris en plein Atlantique, accident. On n'a pas arrêté tout le trafic mondial, on n'a pas cloué au sol tous les avions d'Airbus. Quand tout d'un coup il y a un pépin, un mort d'un médicament en France, tout s'arrête et c'est un scandale. On a une espèce de vision, mais c'est fait exprès, il y a une espèce de manipulation de l'accident qui fait qu'on passe de l'accident au scandale. Parce que c'est l'industrie, ils se font du fric sur le dos des malades, ce sont des salauds, ils sont là pour nous empoisonner. Vous entendez, docteur, ils nous empoisonnent, ils créent les maladies. Alors quand on en est là, moi je dis stop, ça suffit. On est dans un monde de déraison, mais épouvantable. En plus, tout ça sous forme de pseudo, ce que je déteste. Parce que la personne qui n'ose pas se nommer sur Internet, je refuse de la lire. C'est une honte, ça devrait être obligatoire. Au moins qu'on se démasque, qu'on ait une discussion de face à face. Les pseudos me dégoûtent, parce qu'on peut dire n'importe quoi avec un pseudo. Et on voit bien qu'il y a une espèce de... Un refus d'abord du sachant, ça, dans tous les domaines. Hein. Oui. Un refus du sachant. J'en sais autant que l'expert, parce que moi, Voilà. Et c'est ce qu'on voit sur les plateaux de télévision, où on vous met des scientifiques face à des enfoirés de décolâtres. Je parle pas parce que l'écologie est intéressante. Pardonnez-moi. L'écologie est passionnante, et bien sûr qu'il faut se préoccuper de la Terre. Mais l'écolâtrie, non. Moi, les moustachus qui vont vous faucher les champs OGM, qui sont des laboratoires, c'est comme si vous alliez balancer des bombes et des grenades dans un laboratoire du CNRS. C'est la même chose. Ce sont des laboratoires, les champs de l'INRA. Eh bien, on les fauche. Je trouve ça scandaleux et les peines qu'ils ont encourues sont minables par rapport au drame que ça a été. La preuve en est, c'est que les ingénieurs de l'INRA, ont quitté la France. Puisqu'il ne peut plus travailler sur les organismes génétiquement modifiés. Or, nous sommes tous des OGM. Moi, je suis né d'une certaine façon, je finirai d'une autre. Je n'aurai pas les mêmes gènes entre ma naissance et ma mort. Vous non plus. Là, peut-être qu'il y en a un... Ça y est, j'ai vu, vous avez eu trois mutations, monsieur. Ça y est. Vous voyez, non, mais on est en permanence en relation avec le monde extérieur, on est en permanence en modification génétique. Ne nous croyons pas avec un capital comme ça qui est déterminé et qu'il faut préserver, mais c'est une vision totalement infantile. Nous sommes en pure évolution permanente, en action-réaction. Et de voir que la France est en train de perdre toute la part de son savoir-faire en matière d'organismes génétiquement modifiés, je suis catastrophé. Tous les animaux de ferme sont des OGM depuis belle lurette. Les agriculteurs savent faire des sélections depuis belle lurette. Et on n'a jamais vu des gens qui auraient été alimentés en OGM à devenir tout vert, à avoir cinq oreilles, un nez de cyclope et 12 bras à la Wichnou. Non, mais on n'a jamais vu ça. Ça fait 50 ans. Et vous avez 80% de la production du blé brésilien qui est en OGM, 50% des Américains. Donc arrêtons cette folie. Mais c'est franco-français, un point inimaginable. Hein. On se préoccupe plus de la vallée du Testou et de Saint-Martin-des-Landes que, effectivement, la Cité des Sciences et de l'Industrie et le Palais de la Découverte. Bon, c'est comme ça. Bon, mais moi, je suis violent là-dessus, très violent.
Très, très non, remonté.
Mais il faut le dire, alors, parce que personne n'ose se manifester. Il y a une telle pression, et la presse en rajoute, parce que ça fait vendre, et comme c'est du drame, on vend. Eh bien non, il faut dire non. On peut vraiment raisonner. Je suis un pro, honnêtement, de l'agriculture raisonnée, mais je trouve qu'il est désastreux. Enfin, le débat actuel est désastreux. En plus, une écolâtrie politique, on voit bien ce qui se passe, c'est minable, ils ne sont jamais en train de s'entendre. Je dirais à n'importe quel candidat à la présidence, ne jouez surtout pas avec eux. Voilà.
À la fin du livre, on est projeté dans le futur. On se retrouve en 2026. Et c'est intéressant. Alors, il y a Nestor. On est dans le Cantal. Qu'est-ce qui lui arrive le 13 janvier
Nestor est...
Vous avez oublié
Oui, non, pas du tout. Nestor est là, il est dans une ferme à 1,5 km de Perols, dans le Cantal. Et là, il fait froid, il fait moins 10, tout est gelé. Et puis, il s'approche d'un paysan retraité, veuf, qui a 75 ans et qui regarde, il est 9h du soir, il regarde un feuilleton à la télévision, un peu affalé sur son canapé. Et puis, il s'aperçoit que la personne fume la pipe, comme on dit dans mon métier, c'est-à-dire qu'il a la bouche qui va de travers et un bras un peu tordu. Il fait le diagnostic d'accident vasculaire cérébral. Et Nestor, c'est un robot humanoïde qui a été payé à la fois par la Sécu et à la fois par la mutuelle de l'agriculteur en retraite et qui le surveille parce qu'il est seul sur son plateau. Il se balade donc très régulièrement, il fait le tour de la maison pour voir ce qui se passe et rendre un certain nombre de tâches, faire un certain nombre de tâches utiles pour aider son compagnon humain. Et donc avec ses yeux infrarouges, il voit, et les images sont envoyées au SAMU d'Aurillac. Et là, on vous montre l'ambulance dans l'heure et la personne est prise en charge et s'en sortira parce qu'elle aura été prise à temps grâce à Nestor.
Donc
Nestor ne coûte pas cher.
Nestor,
aujourd'hui, vous avez les petits robots Nao, vous les avez pour 8 000 ou 5 000 euros. Demain, vous aurez des Nestor à 2 000 euros. 2 000 euros pour vous faire le boulot jour et nuit sans jamais s'arrêter, ni être triste, ni pleurer, ni vous voler. Bref, c'est tout bonheur. Hein. Donc, vraiment, on va être de plus en plus aidé par ces instruments. Et j'ai mis dans... Il y a un autre exemple, pardon.
Il y a le Doc Expert aussi.
Le Doc Expert, oui.
Il est à Issy-les-Moulineaux. Donc, on va laisser quand même les personnes découvrir. Hein,
Oui, il ne faut pas tout raconter.
Juste
le Parlement qui vote, le Parlement qui vote tout de même, l'Assemblée nationale qui vote un amendement sur le fait qu'on ne pourra pas détruire les robots. ce sera considéré comme une agression comme pour l'homme. Donc ni destruction, il faudra les réparer et on ne pourra pas les agresser. Mais ça va venir très très vite, car la relation robot-humaine va être de plus en plus forte et vous verrez que ce sera comme les animaux de compagnie, vous n'oserez plus. Il faudra les réparer, il faudra les entretenir bien. Il y aura une obligation à l'entretien des robots. On ne pourra pas les jeter comme ça.
Alors, le titre « La médecine sans médecin », vous l'avez compris, c'est un titre un peu provocateur quand même.
Oui, il est avec un point d'interrogation.
Point d'interrogation. Et c'est un ton qui est quand même un peu emporté, un peu polémique quand on vous écoute. Vous essayez d'interpeller le lecteur, les auditeurs. On va lire quand même la conclusion. Hein. Vous dites « Nous avons les moyens d'une médecine à la fois plus efficace et plus humaine. Sachons la saisir au lieu de nous enfermer dans la défense de routines dépassées. » Et vous dites, s'il vous plaît, n'empêchez pas le progrès, ne l'entravez pas. Non, jamais, jamais. Il y a encore tant à faire pour soulager celles et ceux qui souffrent.
Oui, c'est sûr, c'est ça. On a encore tant de choses à découvrir. Et ne surtout pas revenir en arrière ou stabiliser le progrès au nom d'un principe de précaution, pour moi, débile. La prudence m'importe. La précaution, comment voulez-vous faire en sorte que vous ne savez pas le risque et vous arrêtez tout? Mais ça n'a pas de sens. Alors vous vous arrêtez de vivre. Je m'arrête de vivre. Voilà, je suis dans la précaution maximale.
Pas un pied devant l'autre.
La prudence est importante, comme le chat où vous mettez la patte et puis si ça brûle, vous vous arrêtez tout de suite. Mais la précaution, la mettre dans la constitution, ça vous oblige à amener. On va à la juridiction. Rappelez-vous simplement un mot que en 2009, les antennes de Bouygues ont dû être défaites. L'arrêté de la cour d'appel de Versailles était le suivant. C'était au nom. Les mots sont les mots, au nom de la légitime crainte des riverains. Légitime crainte. Voilà, on en est arrivé avec le principe de précaution. Légitime crainte, c'est-à-dire c'est l'élite faciès, l'élite sale gueule industrielle. C'est pas beau, ben voilà, alors ça me bourdonne. Non mais c'est inimaginable, il n'y avait rien. On a fermé, on a détruit des antennes au nom de la légitime crainte. Mesurer jusqu'où on ira demain. Donc il faut revenir à la sagesse, de la prudence alliée à l'innovation, les deux combinés, bien évidemment, mais la précaution, basta.
Alors, je vous remercie beaucoup pour cet échange passionnant. Et on va vous remercier et vous applaudir pour
votre enthousiasme. Je vous en prie.